autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les effets, les bienfaits de la méditation. Comment les mesurer? Pourquoi et comment la méditation agit en profondeur sur le cerveau? Pourquoi ça fait du bien? Par où ça passe? Rencontre avec le neurologue Stephen Lorez, internationalement reconnu pour ses travaux sur les états limites de la conscience, directeur du Centre du cerveau et de l'unité de recherche Consciousness and Coma Science Group à l'Université de Liège en Belgique, où Stephen Lorez et son équipe étudient aussi in situ le cerveau des méditants, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le champion d'apnée Guillaume Néry, sont passés dans le scanner de notre invité autour de la question « Pourquoi la méditation c'est bon pour le cerveau, pour tous nos cerveaux ?» Bienvenue. Bonjour Stephen Lorez.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu de Liège pour être en direct avec nous. Et en plus, vous êtes venu avec un objet très spécial que l'on va décrire, le cerveau moulé de Mathieu Ricard. On va y venir. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de vous recevoir pour partager vos recherches sur les états limites de la conscience. Vous êtes neurologue, internationalement reconnu, je l'ai dit, pour vos découvertes sur la conscience des patients cérébro-lésés. Vous avez, entre autres, réussi à mettre au point un protocole pour déceler des traces de conscience chez des patients en état de coma. Vous dirigez le centre du cerveau au CHU de Liège en Belgique, où vous poursuivez vos recherches au sein du Consciousness and Coma Science Group, l'unité de recherche que vous dirigez à l'Université de Liège, où vous étudiez donc le cerveau dans tous ses états de conscience. Depuis quelques années, vous avez mené de nombreuses expériences avec et sur le cerveau de méditants experts, dont le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Vous avez là à côté de vous son cerveau moulé, ce qui est tout de même assez étrange, mais aussi l'apnéiste Guillaume Néry, électrodes sur la tête, tous deux sont passés, et d'autres aussi, sous votre scanner. Stephen Lorez, c'est ce que vous avez observé comme modification dans leur cerveau qui vous a incité, vous aussi, à pratiquer la méditation et à écrire cet ouvrage très accessible et très inspirant qui vient de paraître chez Odile Jacob, dont nous avons d'ailleurs, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner qui s'intitule « La méditation, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour tous les cerveaux ».
Alors, je pense que c'est une bonne idée d'être un peu plus attentif à notre bien-être mental, tout comme on a des professeurs d'éducation physique. Ben, je propose de faire la même chose pour notre bien-être mental, qui est quand même un peu négligé hein, dans cette société où on a un stress, pas mal d'entre nous, au niveau du boulot, famille, trouver cet équilibre. Et on constate, je le vois à ma consultation comme neurologue, que trop souvent on veut des solutions rapides et on prend des pilules. Quand on est anxieux, quand on a des insomnies, confronté pas mal au burn-out, personne que je vois avec des douleurs chroniques. Et c'est très bien que ces pilules existent, mais il y a aussi autre chose qu'on peut faire et donc devenir acteur. Et c'est donc pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que la méditation, c'est bon, en effet, pour notre cerveau.
Et c'est bon, alors vous le vérifiez en tant qu'être humain, en tant qu'homme, est-ce que vous pratiquez aujourd'hui la méditation?
Je ne suis pas un maître zen, hein, mais je fais ce que je peux.
Voilà, et c'est ce que vous dites aussi dans votre livre, ça qui est assez encourageant et assez déculpabilisant, je dois dire, c'est que vous dites, au fond, chacun, on fait comme on peut, et de toute façon, c'est même une ou deux minutes par jour, dans un instant, entre guillemets, perdu, c'est toujours ça.
Voilà, quand je discute avec Mathieu Ricard, quand il
vient... Moine bouddhiste, traducteur de Dalai Lama et scientifique.
Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais moi, comme... Bah, époux, papa de 4, bientôt 5 enfants,
ah oui.
Avec un boulot à l'hôpital, au labo, il y a 40 personnes à gérer là. Quand il me dit, Stephen, il faut prendre 20 minutes là, tous les matins, eh bien, je ne les ai pas. Je suis désolé, parfois le matin, c'est juste le chaos. Il faut amener les petits à la crèche, l'école, il y a une réunion, il y a un mail, un SMS. On fait ce qu'on peut. Et donc, moi, évidemment, il y a une série de possibilités pour apprendre certaines techniques. Mais, et c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, on fait ce qu'on peut. Et il y a aussi cette méditation informelle, ces moments soi-disant perdu. Là, on est venu dans le taxi, mais ça peut être dans le train. Je le fais entre deux patients à ma consultation, devant une réunion où je m'attends que ça risque d'être un peu stressé.
De se ressourcer, de s'intérioriser.
Tout à fait, un moment, une petite pause. Mon exercice préféré, c'est reconnecter à sa respiration. Voilà, c'est pas très compliqué, on peut le faire assis, n'importe où.
On peut le faire à la radio, c'est un peu compliqué de se reconnecter à sa respiration.
Non, ben,
pour nous aider à le faire.
On est prêt ?
On est prêt.
Alors, Caroline, je t'invite à bien t'asseoir avec le dos bien droit. On peut bien mettre les pieds par terre, les mains sur les jambes. Et tout simplement, si on souhaite, on ferme les yeux, on va respirer et on va avoir toute notre attention sur cette respiration. On peut compter le nombre des inspirations. On le fait ensemble, donc on inspire. On le fera encore 3 fois. Et 2. On peut ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Et donc, ce petit moment, hein, où sûrement...
J'ai même pas eu peur, alors que les silences à la radio, c'est compliqué.
Ah, pour la radio, c'est un défi. Mais je pense qu'on a tous le droit de ces moments juste pour nous, où, ici, c'était très court, mais une fois qu'on a appris ces exercices, on peut devenir observateur. Ce cerveau, il peut pas s'en empêcher, il crée des pensées, des perceptions, des émotions. Et donc là, on prend un peu de distance. Quand on le fait, par exemple, 5 minutes, 10 minutes, on peut mettre un petit timer.
Une petite alerte.
Évidemment, on va avoir le vagabondage de l'esprit. On va penser à d'autres trucs. Ah, je dois encore faire ceci, cela. Mais on ne va pas s'attacher à cela. On ne va pas être dans le jugement. On va reconnecter à la respiration. Et donc, ça va nous calmer. Notre fréquence cardiaque va diminuer. Notre tension artérielle va diminuer. Quand on fait des mesures, une prise de sang, où on peut doser ces hormones de stress, eh bien, ça va être moindre, c'est quelque chose qui est bon pour notre cerveau et tout notre corps par ailleurs.
Autour de la question justement, pourquoi la méditation c'est bon pour le cerveau, je vois tout de suite une autre piste de réponse inattendue, c'est celle de Kung Fu Panda. Oui, le dessin animé que vous citez dans votre livre, Steven Lorez, extrait de Kung Fu Panda.
On doit faire quelque chose, on ne peut pas le laisser envahir la vallée et prendre sa revanche.
L'esprit ressemble à cet eau, mon ami. Quand il est agité, il devient difficile à percevoir, mais si tu le laisses s'apaiser, la réponse devient claire.
Kung Fu Panda a tout dit, drôle de référence tout de même, hein, pour un éminent neuroscientifique dans ce livre préfacé donc par Mathieu Ricard.
Ouais, c'est voilà mon philosophe préféré que je cite ici, Kung Fu Panda. Et en effet, voilà, quand je donne des petites séminaires ou quand je vais dans des écoles avec des enfants de 12 ans, souvent j'ai avec moi une petite bouteille avec un peu de terre dedans. Et alors, je vais la secouer et on ne voit plus rien. Et puis, je la pose et j'explique aux enfants. Ben voilà, ça, c'est ce qui se passe là, à l'intérieur.
Il se passe toujours quelque chose à l'intérieur du cerveau.
Toute cette activité. Et parfois, c'est bien de poser, de laisser calmer cet esprit. Et d'ailleurs, je suis, chaque fois quand je donne ces conférences, comme scientifique évidemment, je pose des questions et je note les réponses. Et quand je leur pose la question, est-ce que les enfants, vous êtes parfois stressés? Vous avez parfois besoin de calme? Est-ce que parfois ça vous empêche ce petit hamster qui tourne là?
Cette petite voix, ce petit vélo dans la tête, enfin
voilà,
comme on veut, on peut l'appeler comme on veut.
Est-ce que parfois vous avez des insomnies à cause de ça? Et c'est surprenant que Oui, 9 fois sur 10, j'ai la réponse oui.
Chez les enfants aussi.
Oui, c'est vraiment impressionnant. Je trouve qu'eux aussi, parfois, ils ont besoin de calme. Et d'ailleurs, on fait des exercices de méditation.
Alors justement, qu'est-ce que c'est que la méditation? Plutôt, pour reprendre dans votre livre, hein, la méditation c'est bon pour le cerveau. Qu'est-ce que n'est pas la méditation? Qu'est-ce qu'on croit à tort qu'elle pourrait être?
Voilà, alors j'essaie d'expliquer ce qu'on entend souvent. La méditation, c'est penser à rien. Ben non.
Parce que c'est compliqué hein, de penser à rien, c'est même impossible.
Voilà, tout à fait. Donc ça, on a eu des discussions avec Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Ça, c'est des athlètes, là, de l'esprit. C'est un autre niveau. Et parfois, d'ailleurs, j'ai difficile à les suivre. Moi, je fais ce que je peux. Et c'est même pas pour moi nécessaire de se plier là en origami sur son petit tapis.
C'est-à-dire de s'asseoir vraiment en position tailleur. C'est pas la peine.
Ben, on peut le faire. Moi, je le fais quand il y a des journalistes, là, quand ils veulent prendre des photos. Mais vraiment, on peut le faire comme on le sent, assis, mais aussi couché.
Et pour vous, spécialiste du cerveau, alors je le rappelle, vous êtes venu avec, on va en reparler, le cerveau moulé de Mathieu Ricard. Par exemple, on va y venir aussi, la méditation, ça a des effets sur le cerveau. Ça a véritablement des effets mesurables.
Voilà,
sur le
alors
cerveau.
Ça c'est clair. Je pense que c'est important et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que, quelque part, on peut dire, mais on en parle déjà beaucoup. Mm-hmm. Il y a toute
une mode.
Une mode, hein, c'est même commercialisé. Et oui, il y a de cela, mais de l'autre côté, je constate quand même que moi-même, ben, je n'ai jamais rien appris sur la méditation. J'ai fait la médecine, puis j'ai fait la neurologie. Et donc, je trouvais un peu particulier que, comme soignant, je suis censé prendre soin des autres, mais je n'ai jamais vraiment appris comment prendre soin de moi, de mes émotions. J'ai deux collègues qui sont suicidés. On a cette problématique du burn-out. Hein. Moi, j'ai un métier à risque et je pense que le burn-out, ben, on entend beaucoup parler, mais quelque part, d'un point de vue structurel, il n'y a pas suffisamment, pour moi, il y a plein d'initiatives formidables, mais j'aimerais vraiment qu'on parle plus de cette méditation qui peut, quelque part, ben, il y a différentes techniques, il y a différents exercices. C'est un peu comme le sport. La méditation, c'est quoi ? Ben, on peut entraîner ou bien son attention, hein, concentration, mais aussi ses émotions. Et en fonction de ce qu'on va faire comme exercice, on va un peu comme nos muscles. Si vous allez commencer à courir ou vous allez entraîner vos bras, le biceps, ça va être différent. C'est la
un
même
entraînement
chose
de l'esprit, hein, pour
tout
reprendre
fait,
les mots de Mathieu Ricard.
Ce n'est pas magique. On peut évidemment, et certains vont à une sorte de quête spirituelle, mais vraiment, dans le livre, j'essaye, un, de mettre pas la barre trop haute, on fait ce qu'on peut. Il y a des exercices, je pense, assez simples. Si moi, je peux le faire, ben, je vous invite à essayer.
Oui, il y en a plein. Moi, j'ai essayé, ça marche. Hein. Il y a plein de petits exercices.
Ben voilà, j'ai déjà réussi avec aussi des témoignages de différentes personnes qui, j'espère, vont pouvoir peut-être inspirer. Il y a des athlètes, il y a des PDG. Et donc, je pense que c'est bien... Comme médecin, comme scientifique, mais pour chacun de nous, comme aînant, on parle de ces études scientifiques. Voilà, il y a vraiment un effet qu'on peut mesurer. On a pu évidemment l'illustrer à travers le cerveau de Mathieu Ricard, mais ce n'est pas le but là de devenir un moine bouddhiste. Si vous et moi, on va faire ces exercices, par exemple le WISMAN, hein, Mindfulness-Based Stress Reduction, c'est un programme.
Ce sont des programmes créés par John Kabat-Zinn aux États-Unis.
Tout à fait.
Au départ, c'était pour éviter les rechutes dépressives, les gens qui ont des problèmes anxieux,
oui,
c'est ça hein.
Voilà, mais ça nous aide à mieux gérer le stress. Alors, comme médecin, je constate que les patients que je vois, c'est très rare d'avoir un problème qui n'est pas aggravé, voire causé par le stress. Alors, on le sait, et cependant, on fait trop peu dans notre prendre soin de nous, notre hygiène de vie, et donc la méditation, comme d'autres choses, bien évidemment. Et là, c'est une invitation à peut-être essayer et trouver qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui marche pour moi. Ça peut être un exercice de pleine conscience, mais aussi d'autres formes de méditation. Certains vont aller répéter un mantra, vont faire du yoga, des exercices de relaxation. Peu importe, mais vraiment, ça vaut la peine d'essayer. Moi, c'est aussi un parcours personnel, là. Je viens de loin. Je suis, par définition, comme scientifique, un grand sceptique. Et maintenant, je prescris de la méditation.
Vous la prescrivez, hein, c'est sur ordonnance. Enfin, d'ailleurs, il y a un de vos chapitres qui s'intitule moins de médication et plus de méditation. Vous prescrivez la méditation,
oui,
à vos patients.
Oui, et je pense que c'est utile d'en parler. Alors, je constate quand même que très souvent, on a une vision un peu noir-blanc. C'est assez polarisé. Ah, j'y crois. Et quelque part, ça, je suis contre les médicaments, ça va me guérir de tout. Ça, c'est évidemment, il faut être plus prudent là. Comme d'autres qui disent, ben non, c'est du n'importe quoi, c'est un peu ésotérique, j'y crois pas, c'est du n'importe quoi. Ben, regardons les études cliniques, c'est clairement maintenant démontré que oui, il y a une série de maladies. Évidemment, le stress, c'est un problème là, dans notre société. Quand vous êtes hypertendu, et ça peut être une bonne idée. Je ne dis pas qu'il faut arrêter vos médicaments.
Mais en plus, dans notre boîte à outils,
voilà,
à côté des médicaments, c'est un outil.
Ça.
Autour de la question, qu'est-ce que la méditation et pourquoi justement c'est bon pour notre cerveau, je propose d'autres pistes de réponse, pas tout à fait thérapeutiques, plutôt une forme de méditation sonore où l'on retrouve dans le désordre le philosophe Alexandre Jolien, le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud.
Alors, on s'assoit, on s'allonge, on fait quoi?
On va s'asseoir.
Comme tu veux.
En Occident, on a ces clichés sur la méditation, faut faire le vide, se relaxer sous un manguier, c'est pas du tout ça.
Et là, l'exercice, c'est être vraiment ici et maintenant, sans chercher quoi que ce soit.
Est-ce que quelqu'un qui s'intéresse sur la méditation a une position philosophique dualiste quant au cerveau ?
C'est-à-dire qu'il est plus facile d'observer son corps que d'observer son cerveau. Donc on peut sentir ces petites tensions nerveuses, ces tensions musculaires qui se mettent en action.
Ce qui peut aider beaucoup, c'est de voir chaque pensée comme un nuage, le laisser aller.
Et en fait, vous finissez par sentir les fils de marionnettes qui tirent sur le corps en permanence et qui rendent extrêmement difficile la stabilisation de la tension.
On est tous d'accord qu'il faut des années d'études, que vous n'apprendrez pas à jouer du piano en tapotant avec deux doigts tous les 15 jours. Tout s'apprend par l'entraînement.
Alors, tout à l'heure.
À tout de suite, Steven Lorès. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre? Ça vous inspire, ces voix de méditants, hein, là, pour
oui,
vous
ben
et de neuroscientifiques?
Je les connais bien, hein, ils sont très, très inspirants. Et donc voilà, c'est des témoignages qui peuvent nous servir d'exemple, mais je pense vraiment c'est à chacun de nous de découvrir qu'est-ce qui me fait du bien à moi, d'essayer. Et évidemment,
c'est par l'expérience, faut essayer de méditer, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans le cerveau? Alors là, en face de moi, j'ai le cerveau modelé de Mathieu Ricard, c'est assez étonnant. Vous verrez d'ailleurs, chers amis auditeurs, certainement une petite vidéo ou en tout cas une photo de ce cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce que, par exemple, celui de Mathieu Ricard posé là sur cette table, il est différent du mien qui n'est pas du tout médité autant que Mathieu Ricard et pas des années et pas des heures durant? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Steven Lorès?
Alors, pour pouvoir répondre à la question comment il est différent du tien, il faudra venir à Liège.
Et que tu modèles mon cerveau.
On va te mettre dans toutes les machines, mais on sait clairement que quand on regarde, ici c'est évidemment des experts qui ont des dizaines de milliers d'heures de méditation, on ne va pas comparer le cerveau avec un muscle, mais c'est clair qu'il est plastique. Quand vous faites des exercices, eh bien ça va changer votre matière grise, ces milliards de neurones, et aussi des connexions. Et donc ça, je le montre dans le livre avec des photos. On a des parties du cerveau qui sont importantes pour l'attention, la concentration, gérer les émotions, qui sont clairement plus développées. On le voit quand on va analyser simplement le volume de la matière grise. Et puis, la force de ce cerveau, c'est ses connexions. Ces milliers de milliards de synapses, ces sortes d'autoroutes-là qui peuvent à nouveau être visualisées. Et on voit par exemple que l'hémisphère gauche et droit, ils sont connectés. Et donc, plus qu'on médite, plus que ces deux côtés de notre cerveau vont améliorer leur communication. Et on peut
Or,
vraiment
ce sont ces connexions-là qui sont les plus importantes, c'est Mais ça, c'est le fait qu'ils soient connectés.
Un cerveau bien connecté, là, c'est un cerveau plus efficace. Et donc, oui, la méditation, à nouveau, il y a, comme le sport, ces différentes techniques, exercices peuvent nous aider. Et aussi, on a injecté du sucre radioactif qui permet de voir comment est-ce que ce cerveau consomme de l'énergie. Et à nouveau, des études, parce qu'ici on parle de Mathieu, mais on ne va pas rester dans l'anecdotique, c'est des études sur des cohortes de personnes plus âgé, là il a 70 plus, et on voit que quand on vieillit, bien le cerveau change. Hein. L'activité métabolique, donc cette consommation de sucre, diminue. Et quand on a, quand on voit ce qui se passe chez quelqu'un qui médite beaucoup, on peut avoir un effet qui nous protège. Cet effet du vieillissement normal va être
atténué.
Et donc je pense que c'est bien d'en parler. D'ailleurs, on commence aussi à comprendre ce qui se passe au niveau des chromosomes. Il y a vraiment un effet au niveau de notre ADN. Et donc, pourquoi pas l'essayer ?
Pourquoi pas l'essayer ? Autour de la question « Pourquoi la méditation, c'est bon pour le cerveau ?» C'est le titre de votre livre, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Alors, on a aussi un petit cadeau à vous glisser entre les oreilles, Steven Lorez, une hypnotranse Soussou, signée de l'inspirante chanteuse congolaise Gassanji. Celle qui chante pour éveiller les consciences. Joli, non ?
Merci.
Sur RFI Hypnotrans Soussou, c'est pour vous, Steven Lorez. Autour de la question empruntée au titre de votre livre, paru chez Odile Jacob, « Pourquoi la méditation, c'est bon pour le cerveau ?» Nouvel éclairage, cette fois-ci, d'une journaliste scientifique, Caroline Tourbe, autour du dossier que Science et Vie, son journal, a consacré en mars dernier aux vrais effets de la méditation.
Ce qui est intéressant sur la méditation, c'est que depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a vraiment une science de la méditation. Parce qu'évidemment, la méditation, ça c'est quelque chose qui remonte à des centaines et des centaines d'années. C'est quelque chose qui est pratiqué par les Tibétains notamment, qui disent qu'il y a plus de 800 types de méditations différentes. Donc on n'a pas découvert la méditation récemment. Par contre, le fait que la science, avec des moyens d'étude, d'objectivation des états de conscience modifiés, s'intéresse à la méditation, ça c'est nouveau. Et du coup, on commence à récolter en effet des marqueurs biologiques ou neurologiques de cet état de conscience modifié sur la méditation. Et c'est intéressant de voir que, en effet, ce qu'on a constaté, ce que les gens qui sont des pratiquants de la méditation de longue date constatent, se vérifie jusque dans les cellules, jusque même dans la composition chimique autour de l'ADN. On a vraiment un effet.
Ça modifie.
Oui, voilà, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un effet en profondeur de l'état de méditation sur nos cellules. L'explication, si vous voulez, on a des constats biologiques. on s'aperçoit que certains marqueurs biologiques des hormones du stress ou de certains marqueurs de l'inflammation sont diminués chez les gens qui sont des pratiquants de la méditation, des méditants experts, et chez eux, comparé à des gens qui ne le sont pas, on voit qu'il y a des marqueurs biologiques différents. Et puis on commence aussi un peu donc à reconstruire l'histoire, à imaginer la façon dont ça pourrait s'expliquer, parce qu'il y a des études avec des casques d'imagerie cérébrale, enfin des méthodes pour explorer l'activité du cerveau, et on voit que certaines zones du cerveau en lien avec le stress, en lien avec tout ce qui est sécrétion d'hormones liées au stress, sont modifiées par la méditation. Donc on commence à avoir une voie biologique qui nous amène du cerveau, d'un état de conscience modifié, qui descend à l'intérieur du corps par les voies du stress, les voies biologiques du stress, et qui amène jusqu'à l'intérieur des cellules, puisque certaines des hormones liées au stress, comme le cortisol, pénètrent à l'intérieur des cellules, et on sait que ces hormones du stress vont avoir une action sur l'ADN, sur les télomérases, sur les chromosomes. Et donc, en modifiant notre réaction au stress, on peut aller jusqu'à modifier le fonctionnement des cellules de notre corps.
C'est extrêmement impressionnant, vous en parlez, hein, Stephen Lawrence, dans votre livre. Vous êtes nombreux ou pas assez nombreux à étudier justement les effets, les bienfaits en l'occurrence de la méditation sur le cerveau et sur le corps?
Alors, mon sentiment est un peu double. D'un côté, il y a maintenant suffisamment d'études pour montrer qu'il y a vraiment un effet de la méditation sur le cerveau. Là, c'est pas quelque chose de magique ou de ésotérique. De l'autre côté, je trouve que, et je montre dans le livre une carte avec le nombre d'études cliniques dans le monde, en Europe, ces 20 dernières années. Et donc là, je trouve qu'on peut faire mieux. Comparé aux essais cliniques qui sont organisés et payés par l'industrie pharmaceutique pour développer des nouveaux médicaments. Là, il y en a des milliers et des milliers. Ici, si on prend en Belgique, il y en a eu 9, en Suisse, 9 sur 20 ans. En France, 24 études cliniques sur la méditation en 20 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc là, j'invite à augmenter les efforts, parce que je pense que... En règle générale, d'ailleurs, investir plus en prévention, et ces différents outils dont on dispose pour nous rendre...
C'est ça, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, c'est ça aussi.
Oui,
vous montrez qu'il faut peut-être être plus, un peu plus souple à tous les niveaux, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres outils que les médicaments, s'ouvrir à la méditation, ne pas non plus croire qu'on va être un expert méditant tout de suite et qu'il n'y a que comme ça que ça peut faire bouger les choses. Il faut être plus souple dans son approche.
Voilà, donc moi, j'en parle et je constate que il y a beaucoup de patients alors qu'ils vont quelque part trouver leur truc. Là, certains vont utiliser des applications. Il y en a plein maintenant qui sont au début gratuits. Il y a Petit Bambou, il y a vraiment des choses extraordinaires qui existent et qui pour certains sont vraiment très utiles. Il y a des audiobooks, il y a sur Internet, il y a des profs qui sont vraiment super. Et on fait ce qu'on peut, cette méditation informelle aussi. Il ne faut pas partir deux semaines en retraite et faire que de la méditation. Pour certains, c'est
Mais enfin, il n'y a pas d'obligation du tout.
Non, vraiment.
Et ça marche, même si on en fait peu, même si on médite peu, ça n'a pas les mêmes effets quand même. Hein, mais ça marche.
Ça va réduire votre stress. Et si on arrive à réduire le stress, et si on le fait sans nécessairement prendre une pilule, et en France, on est quand même champion. Hein, quand on parle des somnifères, des anxiolytiques, c'est calmant, on en prend probablement trop et pas toujours quand c'est justifié. Et donc j'invite tous les personnes qui nous écoutent à peut-être découvrir, essayer ce qu'on peut faire. Et à nouveau, les études cliniques montrent que c'est efficace. Il y a vraiment un effet mesuré qui est aussi grand que celui des antidépresseurs, des anxiolytiques et des antidouleurs. Donc, je pense que vraiment, il faut plus en parler.
En même temps, ça reste très mystérieux, on y reviendra. Vous avez travaillé aussi sur les autres états modifiés de conscience, que ce soit l'hypnose ou d'autres états. Ça reste très mystérieux, même pour le neuroscientifique que vous êtes. Mais on se rend compte que pratiquement, il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est ça.
Alors, oui, le cerveau, c'est très compliqué. Et quand on va avaler une pilule, il va agir sur l'un ou l'autre neurotransmetteur. Et on voit maintenant que la méditation, mais aussi le sommeil, l'exercice physique, a une influence. Et donc l'un n'exclut pas l'autre. Je n'aime pas ce terme de médecine alternative. Pour moi, il y a une médecine, c'est celle qui aide les gens. Et donc
rajouter la méditation dans les études et dans la boîte à pharmacie, dans notre boîte à pharmacie personnelle. Voilà. Vous testez aussi. Vous avez testé aussi, je l'ai dit, d'autres états modifiés de conscience, notamment ceux de ceux qui savent maîtriser et surtout retenir leur souffle. Les athlètes comme Guillaume Neri, champion du monde d'apnée, plongeur remarquable. Je ne saurais trop d'ailleurs conseiller à nos amis auditeurs et internautes de regarder ces vidéos absolument époustouflantes sur Internet. Je propose de l'écouter, Guillaume Neri. Il était venu ici même partager son expérience d'apnéiste, sa maîtrise du souffle, mais aussi l'ivresse des profondeurs, ces hallucinations que vous avez aussi étudiées, Steven Lorez. Écoutez Guillaume Neri nous raconter ce qui se passe dans sa tête quand il est en apnée, à 100 mètres de profondeur. Ça ressemble un peu à un état méditatif.
Mais en fait, c'est comme une méditation. Je pense pas à autre chose que ce qui est en train de se passer dans l'instant. Donc, je suis concentré sur mes sens. Donc, je sens la pression qui m'écrase. Je sens la vitesse de l'écoulement sur la peau. J'ai une conscience du temps qui passe aussi.
Qui ne doit pas avoir la même durée que sur Terre.
Enfin... du coup, alors, ça devient une conscience aiguë et on a une vraie sensibilité à chaque seconde qui passe. Finalement, on est dans une conscience assez proche du réel, de qu'est-ce que la seconde qui passe. On a travaillé sur la modification dans le processus de ventilation, de préparation à l'apnée et dans un protocole de répétition d'apnée assez poussée, quelles étaient les modifications au niveau de l'activité du cerveau. Alors pas sous l'angle de la narcose ou de l'ivresse des profondeurs, parce que l'ivresse des profondeurs est en lien avec la profondeur. Là, on a fait ces tests à l'air libre. Donc c'est vraiment en lien avec l'arrêt de la respiration.
Qu'est-ce que vous cherchez à observer dans le cerveau de Guillaume Neri quand il ne respire pas, parce qu'il est capable de ne pas respirer pendant 5-6 minutes?
Tout à fait. Alors, à nouveau, avoir ces athlètes, Guillaume Neri, Mathieu Ricard, pour nous, c'est des opportunités extraordinaires pour essayer de mieux comprendre dans ces conditions extrêmes ce qui se passe dans le cerveau. Et donc là, il le dit, c'est un état qui est aussi proche de la méditation. Il fait ses exercices de respiration. Et je pense vraiment, méditation, comme on l'a dit, comme le sport, il y a différentes choses là derrière le même mot. Certains vont le retrouver quand ils font du yoga. Mais on peut aussi le retrouver, là je m'entraîne pour un marathon, donc quand on court, on a ce même, on peut avoir ce même
cette espèce d'état où on passe dans un autre état, où on est quoi? On prend du recul, on est un peu détaché, ou comment vous diriez
ça? Oui, c'est exactement ça. Ça peut être une marche en pleine conscience quand on mange, c'est tous des petits exercices là aussi que je décris dans le livre, ou simplement être dans le ici et maintenant. Moi, je viens de loin. Là, j'ai aussi l'esprit qui saute d'un truc à l'autre. Et il y a notre passé. On peut de toute manière pas changer le passé. Donc, à quoi ça sert? On se fait des tracas pour le futur. Et finalement, on passe pas assez de temps dans l'expérience même. Et j'ai 4 enfants, le petit là qui a 2 ans, mais ça c'est un maître zen naturel.
Lui, il fait de la méditation tout le temps, il est ouvert et émerveillé.
Aller avec lui dans les bois, il peut être fasciné. Et je pense que peut-être avec, comme adulte, il faut un petit peu plus reconnecter avec ce côté-là. Et donc, c'était un plaisir d'écrire ce livre. Et pas juste de l'écrire, mais aussi de le vivre.
Le vivre, l'expérimenter. Et en même temps, ça rejoint aussi votre recherche à vous, parce que vous travaillez sur la conscience, sur les états modifiés de conscience. Vous diriez quoi quand en état de méditation, on parle de pleine conscience. La conscience, c'est quoi? C'est dans le moment présent, parce que c'est inétudiable, inapprochable, la conscience. Donc c'est aussi une manière d'approcher ce que ça peut être, la conscience.
Oui, tout à fait. Je me dis, c'est dommage que j'ai découvert la méditation que si tard. Évidemment, comme chercheur, je suis très sceptique et j'avais aussi des a priori. Mais c'est clairement un état modifié de conscience qui nous permet de mieux comprendre cette neuroanatomie fonctionnelle. On a déjà avec l'équipe une tradition à Liège d'étudier l'hypnose, qui, à nouveau, c'est pas magique. On a des opérations qui se font sous hypnose, on a plus de 8000 patients, c'est à nouveau...
Qui permet d'anesthésier la réception de la douleur, disons.
Le chirurgien qui est en train de faire une thyroïdectomie, il enlève la thyroïde, on a eu la reine Fabiola qui est là en train de penser à ses vacances en Espagne pendant que le chirurgien fait son travail. Donc ça illustre la force de notre mental dans un sens extraordinaire qui est la méditation, l'hypnose, qui nous donne un contrôle, comme dans un autre. Le mental est très fort, peut nous donner des angoisses, des dépressions, pousser jusqu'à se suicide. Souvent, c'est quand même une spirale où j'invite le lecteur à justement utiliser ce pouvoir, mais dans un sens
dans un bon
positif.
Sens. Au fond, c'est les sciences de l'esprit dont parle effectivement Mathieu Ricard. C'est ça, c'est-à-dire qu'au fond, notre esprit est bien plus fort qu'on l'imagine.
Tout à fait. Et je pense
cerveau
que...
et corps sont liés et on peut l'éduquer dans un bon sens ou dans un meilleur sens pour nous.
Il y a des choses qu'on peut faire. Donc, on considérait que le cerveau, quelque part, il est là, il est statique. Ben non, il est plastique, il change. Notre ADN aussi, on pensait, c'est comme une encyclopédie, là, c'est écrit, point, non.
Mais non.
Maintenant, il y a tout le domaine de l'épigénétique. On sait qu'on a une responsabilité. Et donc, je pense, comme patient, et non, on est tous patients potentiels, on va de plus en plus devenir acteur. Et il y a des responsabilités. Et donc, ça, c'est très positif. Il y a des choses qu'on peut faire malgré notre bagage génétique, malgré le stress qui est là et cette vie.
Malgré la vie qui parfois est tragique.
Voilà. Et il ne faut pas devenir moine bouddhiste. Ça, ce n'est pas le but. Là. on peut trouver un sens spirituel. Je pense que voilà, il y a peu de Français qui vont passer leur dimanche à l'église. Là, c'est possible aussi. Mais simplement être un peu plus attentif à notre bien-être mental, ce serait une très bonne chose.
Et ça ferait du bien, parce que le morceau que vous avez choisi pour illustrer cette émission autour de la méditation, Stephen Lauret, c'est James Brown, I Feel Good, sur RFI.
I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice.
James Brown sur RFI, I feel good, autour de la question: pourquoi la méditation c'est bon pour le cerveau? qu'I feel good, que je me sente bien, ou que je me sente mal, si
ouais,
est possible
ben,
aussi.
C'est une formidable chanson, I feel good, mais parfois, I feel bad. C'est pas la vie, un long fleuve tranquille, là, dans le livre. Je raconte aussi mon drame personnel, un divorce, 2012, papa de 3 jeunes enfants, et là, I didn't feel good at all. Mais voilà, la vie, parfois, c'est des défis. Et donc, je pense aussi la méditation, en tout cas, c'était mon expérience, à travers le yoga d'ailleurs, et puis avec la rencontre Mathieu Ricard à Paris l'année d'après, d'observer, voilà. Tout simplement, parfois, je ne me sens pas bien et j'ai le droit de me sentir pas bien.
Oui, parce qu'on est dans un monde où il faut quand même faut être performant, il faut que ça marche.
Et
dans
nos têtes,
il faut, voilà, ouais. faut être heureux, il faut être bien. Voilà. Hein, c'est ça.
Et donc, bah, c'est pas la vie. Et donc, voilà, c'était pour moi un exercice utile. Et c'est ce que je constate à nouveau comme neurologue, comme médecin dans ma pratique, c'est comment gérer avec des médicaments quand il le faut.
Bien sûr.
Je suis très content qu'il y a tous ces outils, mais il y en a d'autres. C'est plus compliqué.
C'est plus long, c'est un peu plus long.
Voilà.
Et puis, il faut s'entraîner, il faut travailler.
Ouais. Et c'est... Alors que quand on va prendre du Prozac, ou ce sera la même pilule pour tout le monde, peu importe où on est sur la planète. Ici, c'est inviter chaque individu à trouver qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Et voilà, ça c'est le vrai défi. On essaye c'est pas nécessairement du premier coup qu'on a trouvé l'exercice qui marche pour nous.
Enfin, vous nous en donnez pas mal hein, dans votre ouvrage, Stephen Lorez, ouvrage qui s'intitule « Pourquoi la méditation, c'est bon ?» La méditation, c'est bon pour le cerveau. Donc, nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Alors, autour de la question « Pourquoi ça fait du bien ou pas ?», je propose d'écouter celui qui, en France, hein, nous fait passer la méditation. C'est le psychiatre Christophe André, à travers ses ouvrages, ses conférences et ses chroniques radio chez nos confrères de France Inter. Je propose, Stephen Lorez, d'écouter un extrait de la jolie chronique qu'il a consacré au silence habité, intitulé « Silence, on vit ».
Ce qu'on découvre, c'est ce dont parle Paul Valéry dans « Tel quel ». Écoute ce bruit que l'on entend lorsque rien ne se fait entendre. Plus rien. Ce rien est immense aux oreilles. Ce rien, ou plutôt ce presque rien, c'est la rumeur tranquille de la nature, le vent dans les arbres, les chants d'oiseaux, les cris d'animaux. Ce silence habité nous offre un bain sonore apaisé, sans son intense, agressant ou continu. Et il y a aussi les bruits et chuchotements des environnements humains lorsqu'ils se font discrets. C'est par exemple le silence des monastères, des lieux de retraite méditative, l'écho de nos pas, le son des objets que l'on utilise, le chuintement des paroles prononcées à voix basse. Comme le dit un autre écrivain, Christian Bobin, c'est le bruit que fait le monde lorsque je n'y suis pas.
Le bruit que fait le monde lorsque je n'y suis pas, lorsque je suis en méditation. Stephen Lorez, vous citez dans votre ouvrage également un écrivain, Rainer Maria Rilke. « Je vous prie d'être patient à l'égard de tout ce qui, dans votre cœur, est encore irrésolu et de tenter d'aimer les questions. » Ça permet ça aussi, la méditation ?
Oui, comme on vient de le dire, d'être émerveillé. Je pense que là, à nouveau, c'est ces enfants qui découvrent le monde, la beauté autour de nous, peuvent être exemplaires. Mais vraiment, je pense qu'il y a tellement de possibilités que moi, ici, avec ce livre, j'ai essayé de toucher le plus grand nombre. Je l'ai écrit pour les copines de ma maman, de ma fille, et de vraiment faire ce qu'on peut, de pas mettre la barre trop haute. On a trop tendance à dire « Oh, ça va jamais marcher, ce n'est rien pour moi de s'auto-flageller là où d'aller chez un prof, et ben non, il est annulé. » Essayez et faites ce qui est possible pour vous. Je le répète, moi, comme papa, avec deux boulots, il y a des moments où, voilà, je n'y arrive pas et je l'accepte, mais vraiment, il y a des exercices qui sont possibles sur le train, entre deux patients, et ces moments perdus, pour moi, vraiment, m'ont permis de calmer l'esprit qui parfois juste n'arrête pas de tourner, m'empêche de dormir, me donne parfois des angoisses. Et je dis pas que je suis un maître zen, demandez à mon épouse et aux enfants, mais le cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, quand j'arrive à dire « Ah, là, je suis fâché » ou « Là, j'ai des angoisses », eh bien, du coup, je le suis déjà beaucoup moins. Et ça, pour moi, c'était vraiment une découverte, de devenir observateur de ses pensées, de ses émotions.
Est-ce que ça vous aide dans votre pratique au quotidien? Vous êtes neurologue, sûr. Vous êtes à la fois à l'hôpital, en même temps, vous menez des recherches vraiment sur les états de conscience modifiés, vous travaillez avec des patients dans le coma.
C'est clair, l'environnement où je travaille, les soins intensifs, la mort, elle est omniprésente, le drame humain d'avoir ces familles qui viennent de perdre leurs proches ou d'être dans un état le plus grave possible, encore compatible avec la vie, mais avec un handicap tel. Oui, avec l'équipe d'ailleurs, on doit gérer nos propres émotions.
Donc pour les soignants aussi.
C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, on a des cours de yoga qu'on organise. À nouveau, on n'impose rien. Ça, c'est pas le but. Le but n'est pas de dire « Allez, tout le monde va faire maintenant de la pleine conscience », mais au moins d'inviter. C'est possible. Et c'est clairement plus compliqué que d'avaler une pilule, mais ça peut être aussi puissant. Et donc, il me semblait important.
Et sans que ce soit un sacerdoce, c'est-à-dire sans qu'on devienne moine bouddhiste ou qu'il faille y consacrer en menant une vie normale.
Tout à fait, tout à fait.
Et dans notre monde, qui n'est pourtant pas très méditatif, pas très contemplatif, on va dire.
Voilà, et on le sait, le stress chronique, ce n'est pas bon. Et les études le montrent, je le prescris. C'est clair que, voilà, quand j'ai quelqu'un qui a mal à la tête, il faut exclure qu'il n'a pas un cancer, qu'il n'y a pas quelque chose. Et quand vous avez une méningite, la première chose dont vous avez besoin, c'est des médicaments. On ne l'apprécie pas assez. Mais il y a toute une série de choses que vous pouvez faire. Les études montrent, par exemple, quand on parle du cancer, que quand vous avez des chimiothérapies qui ne sont pas toujours agréables, eh bien, la méditation, comme d'autres pratiques, peuvent vous permettre à mieux gérer ces effets secondaires. Et donc, voilà, on ne peut plus continuer à ignorer que la méditation, c'est du n'importe quoi. Non, il y a des études.
On ne peut plus l'ignorer au niveau humain et on ne peut plus l'ignorer au niveau scientifique. Vous qui êtes neurologue, qui vous intéressez à la conscience, ça vous intéresse aussi particulièrement d'approcher ce mystère-là de la conscience.
Ah oui, ça reste, il ne faut pas être trop arrogant. La personne a compris comment quelque chose de matériel, un cerveau, devient pensée, perception, émotion, ce qu'on appelle la conscience humaine. C'est fascinant. D'ailleurs, j'ai pu passer une journée avec le Dalai Lama. À un moment, ça devient compliqué parce qu'il m'explique ses états de conscience pure. À un moment, il va parler en tibétain. Et donc, ça vraiment, parce que moi, je suis un scientifique, ouais, j'utilise des machines, des scanners qui vont faire des mesures. Et voilà, je suis convaincu de cette force de la méthodologie scientifique, mais on doit aussi s'intéresser à notre subjectif, cette expérience personnelle. Et le défi, c'est justement d'essayer de faire ce pont. Et là, je remercie Mathieu Ricard. Ouais. Il est venu de son cloître là, pour passer des journées dans nos machines. Et puis, on a publié ce qu'on a vu chez lui, chez les autres. Il est co-auteur.
Dans des grandes revues scientifiques.
Revues scientifiques. Et ça me permet, dans le livre, de dire ben voilà, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la méditation.
Merci infiniment d'être venu donc avec votre livre et puis avec le moulage du crâne de Mathieu Ricard. Ça, j'avais jamais vu ça encore. Merci beaucoup d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir donc dans notre studio avec votre ouvrage. Donc, je rappelle que nous avons, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale, la méditation, c'est bon pour le cerveau, à lire, à pratiquer dans tous les sens. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Et puis, je signale aussi la parution de deux autres ouvrages sur la méditation, celui de Christophe André à l'Iconoclaste, Le temps de méditer, et puis un roman graphique, Méditer, le bonheur d'être présent. C'est une BD sur et avec et autour du philosophe méditant et fondateur de l'école occidentale de méditation, Fabrice Midal, aux éditions Philippe Ray. Vous revenez quand vous voulez, Steven Lorez. Merci.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Spotify. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski pour vous servir. Chers amis auditeurs, merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.